Le grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le grand jury de la presse immobilière, votre rendez-vous mensuel sur Radio Immo. Chaque mois, pendant une heure, nous prenons le temps de décrypter l'actualité du logement, de l'immobilier, de la ville, de la construction et de la transition environnementale. Avec aujourd'hui une émission un petit peu spéciale, une émission best-of, c'est la dernière de l'année. Donc on va se faire plaisir autour de cette table avec des journalistes, des chroniqueurs qui confrontent leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs interrogations. Et nous allons également nous intéresser aujourd'hui à un espèce de petit best-of de tous nos invités que nous avons eu tout au long de cette saison 2025-2026. Alors l'objectif bien sûr n'est pas seulement de commenter l'actualité, l'information, c'est aussi de comprendre, de la mettre en perspective et bien sûr d'ouvrir le débat. Au programme aujourd'hui et comme chaque mois, nous commencerons par la météo de l'IMO en partenariat avec Bien Ici et avec notre ami Régis Sebi qui est analyste chez Bien Ici. Bonjour Régis.
Bonjour Eric.
Merci d'être avec nous encore une fois ce mois-ci. Vous allez nous décrypter un petit peu le premier semestre, hein, je crois.
Exactement, les tendances du premier semestre et aller plus loin si on peut y aller.
Voilà, et nous ferons ensuite un tour complet de l'actualité avec nos journalistes et chroniqueurs du jour. Un plateau 100% Radio Immo. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et privilège d'accueillir Myriam Schwartz. Bonjour Myriam.
Bonjour Eric.
Vous êtes Myriam architecte, fondatrice de l'atelier d'architecture et d'urbanisme qui porte votre nom. Vous êtes chroniqueuse aussi. Les auditeurs de Radio Immo vous connaissent bien. Vous proposez toutes les deux semaines l'émission Conversation urbaine et architecturale. Vous mettez votre expertise au service des grands enjeux d'architecture, d'urbanisme et de qualité des projets immobiliers. Vous êtes en phase totale finalement avec ce que l'on a envie d'évoquer aujourd'hui, à savoir décarbonation, rénovation du parc immobilier et puis toutes les influences de la canicule sur nos logements. Merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Avec nous également Jean-Baptiste Venin qui est journaliste à Radio Immo et Radio Territoria. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Eric et bonjour à tous.
Merci, c'est un plaisir de vous avoir. Vous vous intéressez bien sûr tout particulièrement aux mutations des territoires, aux collectivités et aux enjeux de la transition immobilière. On en parle avec vous dans un instant. La chance aussi d'avoir avec nous Pierre Darmé. Je suis ravi de vous avoir Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes un spécialiste reconnu des enjeux de ville durable, de biodiversité, d'aménagement des territoires. Vous venez de rejoindre Ideverde, le leader européen des services environnementaux et de l'aménagement paysager, engagé dans le développement de villes plus résilientes et plus vertes. Là aussi, c'est un sujet vraiment d'actualité. Bienvenue dans ce grand jury. Et petit Eric. Scoop, on espère vous retrouver à la rentrée sur Radio Immo avec une émission. On n'en dit pas plus pour l'instant, peut-être qu'on en dira un petit peu plus tout à l'heure, mais ça va être très, très, très intéressant, bien évidemment. Donc merci à vous quatre d'être présents. Donc comme chaque mois, on va tout de suite prendre la température du marché avec vous, Régis Sebi.
La météo de l'Immo. Par Bien Ici.
Donc, comme je le disais en introduction et comme vous nous l'avez dit, Régis, on va s'intéresser un petit peu à un bilan du marché immobilier sur ce premier semestre qui s'est achevé, donc de janvier à juin 2026. On commence par quoi ? Par le marché de la transaction ?
Oui, on va commencer par la transaction avec des résultats qui sont plutôt mitigés sur le premier semestre 2026. Déjà, on a eu un bon démarrage en janvier dans la poursuite de cette reprise de 2025, puis un coup de froid, un coup de frein. Je ne sais pas comment on peut le dire, un coup de mou et un coup dur, surtout de février à mai, avec un conflit au niveau du Moyen-Orient qui a joué beaucoup sur l'inflation, sur la peur, sur la crainte, sur la hausse des taux, et qui a ralenti ce marché immobilier. Concrètement, en fait, on va avoir une offre qui progresse un peu et qui ne manque pas, donc ça c'est déjà bien, on a de l'offre, on a de quoi acheter, il y a un marché qui existe. La demande, elle recule sur le premier semestre 2026 par rapport à 2025, mais reste supérieure néanmoins à celle de 2024. Donc on n'est pas non plus dans ce trou qu'on avait connu en 2024, là où tout allait au plus mal.
D'accord.
Ce qu'on va retenir pour cet été surtout, c'est deux points essentiels. Déjà, un, au niveau de la situation qui est délicate avec ce coup de froid du printemps face aux incertitudes créées par le conflit au Moyen-Orient. Et un point plutôt positif, à savoir ce coup de boost sur juin poussé par les banques. Vous savez qu'ils ont mis tout en œuvre pour donner de l'air et des possibilités aux primo-accédants avec beaucoup d'opérations, mais sachant que les crédits vont remonter sur la fin de l'année, on s'oriente vers un retour à 4%. Celui qui nous avait donné, ce même 4%, un coup de frein complet sur le marché immobilier.
Mais c'est vrai que je crois qu'on a tous reçu des mails, des informations des banques nous disant c'est le moment d'investir, c'est le moment d'acheter.
C'est toujours le moment, et là c'est vraiment le bon moment. Oui.
Alors, au niveau du marché de la location, vous avez, avec Bien Ici, organisé une première conférence de presse sur ce sujet, le marché de la location, avec une étude très complète, exhaustive, je crois qu'on peut, le dire, sur ce sujet. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à écouter le président de Bien Ici, David Benbessa, qui nous a gentiment accordé une interview, que l'on retrouve d'ailleurs sur le site de Radio Immo. Donc, ce marché de la location, est-ce qu'il est toujours en manque d'offres aujourd'hui, Régis ?
Alors oui, on est toujours en manque d'offres. On est à l'inverse du marché de la transaction, c'est-à-dire que les biens, le volume de biens, il a été divisé par 2,5 en l'espace de 3-4 ans après l'été 2021. Donc on est passé d'une saison Covid où rien n'était possible, on pouvait pas déménager pendant les confinements. 2021, une énorme rotation de marché avec tous les gens qui ont voulu quitter leur logement pour trouver autre chose. 2022, année où il n'y avait plus rien parce que la rotation avait été complète l'année d'avant. Et on se retrouve sur un niveau de stock faible et toujours plus de demandeurs. En gros, on va avoir une situation de crise où enfin les autorités publiques prennent des mesures, donc ça c'est la bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle sur l'offre qui augmente par rapport à l'année dernière au premier semestre de plus 12,5%, donc oui, on a un petit souffle, mais on est toujours dans le creux bas. Néanmoins, la problématique, c'est surtout sur l'été, là, on arrive en plein pic saisonnier, on est en plein dedans, on a les étudiants qui arrivent, Parcoursup, c'était déjà au mois de juin, et c'était plus 15% de recherche immobilière sur les biens alloués à partir des premiers résultats de Parcoursup. Vers le 8-9 juillet, c'était les résultats du bac. C'était le bac cette année, c'était 716 000 inscrits sur la session de juin. Si on estime à peu près à 10-15%, même 15% de jeunes qui ont eu le bac et qui poursuivent leurs études en dehors du logement familial, c'est à peu près 100 000 nouveaux demandeurs de logement et de petites surfaces, là où le creux est le pire dans le marché locatif.
Donc cette situation de crise, elle est en train de, pas de s'atténuer, mais on a l'impression qu'elle est prise en compte, en tout cas au niveau du gouvernement notamment.
Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Mm-hmm. On parle de nouveaux logements à créer, d'encouragement des investisseurs, etc. Sur cette création de nouveaux logements, forcément, ça ne va pas arriver cet été, donc on va avoir un été encore difficile. Mais c'est des bonnes mesures, en tout cas, à prendre en compte. Il y a la réintégration des jets en recalcul qui pourraient jouer aussi. Donc tout ça, c'est des bonnes mesures. En tout cas, on a un appui du gouvernement sur ces questions et ça va être vraiment les questions de demain.
Et c'est vraiment urgent, je crois qu'on peut le dire. Alors si on se projette un petit peu, Régis, sur la seconde partie de l'année, sur le deuxième semestre qui a démarré, avec ce bilan quand même mitigé du premier semestre, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ?
Alors on peut s'attendre à tout, on peut dire des bonnes choses, des mauvaises choses. Déjà sur les taux, on sait que ça va remonter, donc sur le marché de la transaction, ça va être très très compliqué. Néanmoins, les actions bancaires de cet été sur la primo-accession vont avoir des effets. Forcément, il va y avoir des ventes sur l'été. Les ventes sur l'été et en primo-accession vont redonner de la rotation sur le marché locatif. Alors ça ne va pas arriver sur ce pic saisonnier-là, ça va arriver à partir de septembre. Là, c'est un bon espoir de second souffle sur la location. C'est-à-dire qu'en devenant propriétaire, on libère un marché sur le locatif et on relance un petit peu ce parcours résidentiel qui est bloqué. Le point clé, en fait, de ce deuxième semestre, c'est vraiment le budget. La question du budget, le budget des ménages dédié au logement.
Et c'est vrai que vous êtes revenu longuement sur, lors de la conférence de presse que
exactement,
vous avez
organisée hier. Exactement, là on en a beaucoup parlé.
Parce qu'on se pose la question, effectivement, est-ce qu'on a encore les moyens de louer, notamment aujourd'hui ?
Alors, de louer, d'acheter, et surtout l'inflation qui augmente tous les prix de consommation. Parce que forcément, quand vous augmentez le prix du chauffage, le prix du gaz, le prix de l'électricité, le prix de l'essence, ça remet en cause le logement. Parce que habiter plus loin, c'est des frais d'essence en plus. Et du coup, le budget se réduit. Quand on regarde au niveau de la consommation aussi, la consommation baisse parce que forcément, si on met plus d'argent dans son essence ou dans son électricité, on a moins d'argent sur son loyer, sur son remboursement de crédit et aussi sur tout ce qui va avec le logement, c'est-à-dire des frais de décoration par exemple. Donc là où ça a explosé post-Covid, vous savez, tous les magasins de bricolage et de déco qui explosaient, qui ont fait des chiffres records, forcément avec une contrainte de budget, si les gens ne déménagent pas ou améliorent pas leur logement, va y avoir un peu de perte d'économie à ce niveau-là.
Donc, à suivre de très très près, vous reviendrez bien sûr à la rentrée pour nous donner les nouveaux chiffres, les chiffres de l'été.
Exactement. Et ce qu'on peut retenir, en tout cas en conclusion sur ce semestre qui approche, c'est qu'on est à moins d'un an des élections présidentielles.
C'est vrai.
Que le blocage du logement, c'est forcément un sujet qui ne peut plus être ignoré. Et là, ça va être tous les sujets au cœur des prochains débats politiques. Donc, on a hâte vraiment à la rentrée, à voir ce retour en force. On parle de canicule, on parle de pression thermique, on parle de beaucoup de choses sur le sujet du logement, donc oui, ça va être vraiment au cœur des débats très prochainement.
Merci beaucoup Régis, vous restez avec nous, hein. De toute façon vous participez également à, au débat qui s'en suit. Je vous ai vu les uns et les autres réagir aux différents chiffres que donnait Régis. Effectivement, ça vous inspire quoi Myriam par exemple ?
Alors effectivement, je vous rejoins en ce qui concerne la problématique de savoir où on met son argent, où le reste à vivre, puisque parfois il reste juste de quoi, entre guillemets, se nourrir.
Oui.
L'inflation fait qu'on a moins d'argent pour se payer des à-côtés. Et effectivement, le loyer et les charges qui vont afférentes à ce loyer et pour, on va dire, se loger, qui est la priorité, reste quand même extrêmement impactante sur un budget d'un ménage, quoi. Et ça, c'est une vraie problématique. J'espère aussi, comme vous, que les politiques sauront y répondre.
Bien sûr.
On a ce sentiment-là, hein, Jean-Baptiste, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, le gouvernement se réveille. Enfin, avec quelques mois maintenant, mais on a l'impression que ça agit un petit peu plus vite que jusqu'à maintenant.
Honnêtement, je ne sais pas si ça agit beaucoup plus vite, mais en tout cas, effectivement, la question, elle est d'actualité. Vous le rappeliez, on se rapproche d'une échéance électorale qui me semble primordiale, évidemment, en 2027. Forcément, la question du logement va être centrale. Aujourd'hui, il y a des vraies difficultés. On en reparlait de l'inflation qui est galopante, avec une situation vraiment inconfortable au Moyen-Orient, toutes les répercussions. On peut parler aussi du moral des Français, qui ne doit pas être forcément au beau fixe non plus. Donc, pour la consommation, c'est aussi quelque chose de compliqué. Et c'est de plus en plus difficile aussi de se loger, de payer son logement, que ce soit l'acquérir en tant que propriétaire ou même sur le marché locatif. C'est très compliqué aujourd'hui. Donc c'est des vrais sujets, effectivement.
Effectivement, et heureusement qu'il y a la Coupe du Monde, hein, finalement, pour avoir le moral
aujourd'hui.
Pour
détendre un peu, ouais. Entre la canicule et puis...
Voilà, et la canicule, on n'a pas fini d'en parler hein, dans cette émission. D'ailleurs, ça vous concerne directement, hein, Pierre. Ce sont des sujets que vous maîtrisez aussi depuis longtemps.
Ouais, je pense qu'effectivement, ce sujet de l'immobilier, du logement, plus largement, c'est celui d'habiter. Comment est-ce qu'on habite les territoires ? Et l'actualité nous rappelle fortement que habiter un lieu, c'est vivre dans son logement, mais vivre aussi dans les communs, qu'ils soient publics ou privés, qu'on a, les places publiques, les parcs, qui viennent à la rescousse lorsque les errances passées de certaines politiques publiques comme privées en matière de construction et de rénovation du bâti font qu'on est dans des espaces qui ne sont plus vivables. Donc tous ces sujets-là, et on les entend déjà avec plus ou moins de ferveur chez les candidats déclaré ou non à la présidentielle, vont être mis sur la table. On parle beaucoup du fonds vert qui a été raboté avant même d'avoir été jusqu'au bout. Certains parlent de le doubler. Il va falloir faire des choix, ouais. Puisqu'on n'est plus dans une période faste. Mais on le mesure avec la difficulté qu'on a à évaluer les conséquences concrètes sur la santé de nos concitoyennes et de nos concitoyens de ces canicules qui vont aller à répétition. Hein. Je rappelle simplement, au-delà des chiffres du GIEC, de manière très concrète, il y a 2 ans, la Fondation pour le mal-logement, qui s'appelait à l'époque Fondation Abbé Pierre, avait dit le mur que nous avons en termes de rénovation du bâti et de son proche environnement, c'était la première fois qu'on parlait de la végétalisation des rues dans un rapport de cette institution, est au moins aussi important pour le confort d'été que pour le confort d'hiver. C'est un enjeu démocratique majeur, un enjeu de santé, un enjeu d'habitabilité. Donc comment est-ce qu'on habite mieux nos territoires ? Ça touche tout le monde et je pense que ce sera au cœur des débats et des actions dans les mois et les années qui viennent.
En fait, c'est ça qui est assez effrayant. Ce sont des sujets dont on parle depuis longtemps, effectivement. Et puis là, maintenant, on se réveille parce qu'on est dedans, quoi. En fait, ça arrive plus vite que prévu, finalement. Et là, maintenant, on dit qu'il faut aller vite. C'est pas évident d'aller vite dans un domaine comme la construction et le logement. Il faut, voilà.
La réaction doit être rapide. Ouais. Ensuite, il faut laisser le temps au temps, en effet, pour que tout puisse se mettre en place.
Alors on va continuer cette émission, on écoutera d'ailleurs, on a parlé du gouvernement, on écoutera tout à l'heure Vincent Jeanbrun, le ministre de la Ville et du Logement qui nous a fait le plaisir de participer à cette émission au grand jury de la presse immobilière. On écoutera un extrait justement sur son plan relance logement qui vient d'être adopté par le Sénat et qui va être examiné à l'Assemblée nationale à la rentrée. On aura le plaisir aussi d'écouter un extrait de l'émission de Nadia Bouillet, la directrice générale de Action Logement, parce que Action Logement aussi aussi c'est, on va dire, allez, si je me permets l'expression, bouger un petit peu pour accélérer les choses en achetant quelques 34 000 logements l'année dernière. Et puis on aura aussi le point de vue de Romain Rossilandi, qui est avocat spécialiste en droit de l'immobilier, qui lui s'intéressait, alors on l'a reçu au mois de novembre 2025, et il s'intéressait justement à l'aspect que vous évoquiez, Régis, le fait de ne pas pouvoir louer des logements en F et en G. Donc on est en train de revenir sur ça, mais on écoutera son indignation tout à l'heure et vous pourrez bien évidemment réagir. Mais vous êtes venus aussi, les uns et les autres, avec des coups de cœur et des coups de gueule. On va essayer de les découvrir.
Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
Et bon, on va commencer avec vous, Myriam. Vous allez ouvrir cette revue de presse. Alors, c'est quoi aujourd'hui? C'est plutôt un coup de gueule, hein, je crois, que vous
oui,
avez poussé.
Un coup de gueule. D'avoir entendu récemment, puisqu'on est, c'est un coup de gueule à chaud, hein, ouais, puisque nous sommes en pleine canicule, d'avoir entendu quand même très souvent lu des articles, on va dire depuis la première canicule, sur c'est de la faute des architectes, c'est de la faute des bailleurs, c'est de la faute des promoteurs. Alors c'est un petit coup de gueule, d'abord pour dire que les opérations mettent entre 3 ans, 5 ans, 10 ans à sortir. Donc ouais, effectivement, la réglementation n'est pas toujours la même. On passe de la RT 2012 à la RE 2020. Je ne vais pas embêter les auditeurs avec toutes ces réglementations. Mais les réglementations, parfois, elles mettent extrêmement longtemps à sortir, puis extrêmement longtemps à s'adapter au marché, puis extrêmement longtemps à etc., etc., etc. Le tout fait que ce petit coup de gueule, et pour revenir un petit peu en arrière, sur une expérience que nous avons eue au moment du Covid. Au moment du Covid, l'Arsenal à Paris nous a demandé, nous architectes, nous professionnels du construire, si on avait des recommandations à faire. Et la plupart des recommandations étaient sur le fait de dire il est absolument nécessaire dans les futures constructions privées, d'avoir, privées et publiques bien sûr, d'avoir un balcon, quel que soit l'appartement, que ce soit un T1, un T2. Et tout le monde l'a fait avec beaucoup de bon sens. Ça a mis un ou deux ans, mais même quelques projets qui était en cours, on a déposé et redéposé des permis de construire. Ben là, c'est un petit peu mon coup de gueule de dire remettons-nous sur le bon sens, et le bon sens fait qu'on peut peut-être s'adapter, peut-être mettre évidemment des volets partout, que ce soit un bon sens sans passer par une loi, mais que ce soit un petit peu une obligation, on va dire. Et la même chose sur la réhabilitation, parce que ça, c'est encore un autre sujet.
C'est un autre sujet, effectivement. Il faut toujours un coupable, quoi, finalement.
Voilà, c'est ça. Mais moi, j'espère que le bon sens peut être la priorité de tous les cerveaux d'entre nous.
Vous évoquiez les volets. C'est vrai qu'on a eu malheureusement le cas d'une
oui,
dame qui est décédée, une dame de 93 ans qui est morte parce qu'elle n'avait pas de volets, alors que c'était une prescription médicale, qu'il y avait des travaux et qu'on ne lui a pas installé les volets à temps.
Alors là, c'est de la réhabilitation, mais la réhabilitation, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être faire un arrêt sur image en se disant, bon, est-ce qu'il y a de la réhabilitation prévue ou pas dans les projets qui sont en cours, peut-être qu'on peut faire des permis modificatifs, mettre des financements complémentaires. Je sais que c'est toujours un financement, c'est toujours un problème économique important, mais peut-être qu'il y a des priorités.
Le sujet est complexe, hein,
oui,
quand même.
Parce que... Et puis la vraie question, c'est de savoir si effectivement le bon sens peut l'emporter sur finalement le fait de légiférer. Parce que voilà, c'est une vraie question.
Trop de réglementation.
Oui.
Voilà, le bon sens, oui, dans les mots, on a envie de dire qu'effectivement, c'est du bon sens que d'installer des volets. Mais voilà, et s'il n'y a pas de loi qui impose ça, comment ça va se passer, en fait?
Alors, parfois, c'est justement les locataires et les acquéreurs qui obligent les constructeurs, quels qu'ils soient, à faire. Sur le Covid, ça a été comme ça. Les appartements qui n'avaient pas d'espace extérieur n'étaient tout simplement pas achetés ou pas loués. Donc, ils sont restés un peu sur les bras. Et ben peut-être que ceux qui n'ont pas de volets...
Faire écho avec cette histoire tragique de cette dame là, qui a perdu la vie, on peut-être rappeler que le bon sens aussi, même si j'enfonce une porte ouverte, mais c'est bien de le rappeler aussi, c'est de faire attention aux personnes qui sont autour de soi. Et quand on est dans une résidence, par exemple, qu'on sait qu'il y a des personnes seules, juste aller taper à la porte pour voir comment se porte le voisin, tout simplement. Alors, encore une fois, hein, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais ça aussi, ça fait partie du bon sens. Et quand on parle d'une société où on parle de plus en plus de l'entre-soi, c'est peut-être bien, à un moment donné aussi, sur ces périodes-là, de se rappeler qu'on est tous humains et que s'aider collectivement, c'est bon aussi.
Ouais. Pierre, vous êtes d'accord?
Oui, bien sûr. Sans faire d'humour noir, parfois, il faut aussi enfoncer la porte lorsqu'elle est fermée. Mais plus sérieusement, l'attention à l'autre, c'est aussi... c'est ma marotte, mais l'attention au vivant. Et je rejoins ce que dit Madame l'architecte et chroniqueuse Myriam Schwartz. Il ne faut pas attendre et peut-être regarder le verre à moitié plein et regarder devant nous. Le souhait des citoyens, cette nécessité va faire loi, comme elle l'a fait sur l'accès aux espaces extérieurs. C'était, pour ne pas les citer, BNP Paribas Real Estate qui avait commandité un sondage au milieu du Covid, la première période de confinement, avril 2020, 82% des Français. Pour 82% des Français, le premier critère de choix d'un logement, c'était l'accès à un espace extérieur. Moi, je parlais forcément du végétal. C'est comme les volets, ça fait partie de ces choses de bon sens. Un professionnel de l'immobilier se disait souvent auparavant, Éric Denet, lorsqu'il était directeur général de Groupama immobilier, disait « Je suis diplômé de BSP, du bon sens paysan, cher à Groupama, puisque c'est le premier assureur du monde agricole auquel les jardiniers sont rattachés et attachés. Ce bon sens, il veut de laisser l'initiative prospérer et peut-être de reconnaître après coup des dispositifs qui sont favorables. » Exemple très concret, cette semaine, une télévision belge a mis en avant une maison à Bruxelles dont la façade est végétalisée de manière très simple. C'est une glycine cultivée depuis des années par son propriétaire. La température n'excède en permanence jamais plus de 25 degrés. Et il y avait un auditeur énergétique qui dit « Je suis très surpris de voir, et je ne le savais pas, qu'une végétation en face de la façade n'était pas intégrée par les notations énergétiques. Alors nous allons corriger cela en menant un test pour vérifier la robustesse scientifique et technique de cette expérience, ce qu'on devrait prouver facilement. Une fois qu'on aura les indicateurs, peut-être que ça pourra faire tache d'huile et qu'on pourra l'indiquer comme un des critères positifs. » Voilà, on n'est pas forcément obligé d'attendre la loi. On sait qu'il y a des certifications, des labels. Alors, ce sont parfois des contraintes. J'ai cofondé l'association CIBI avec les labels Biodiversity. Et ensuite, une fois même que le réflexe de bon sens est adopté, on n'a plus besoin de label. On a besoin de ce diplôme universel de BSP pour pouvoir progresser.
Ça veut dire quoi que finalement, le temps long que l'on évoquait tout à l'heure, si on ne peut pas évidemment l'éviter, il y a quand même des solutions plus rapides. On peut trouver des solutions aujourd'hui.
L'important, c'est probablement de ne pas repousser l'échéance pour s'y mettre. Voilà, si on veut un summer body, ça n'est pas le 15 juillet que l'on va s'en préoccuper. C'est un effort de tous les jours. Voilà. Donc, le sujet, c'est de ne pas procrastiner. Et ensuite, évidemment, il faut que toute la chaîne de valeur se mette en ordre de marche. Je pense que les artisans qui aujourd'hui ont cette compétence de pose de volet vont être beaucoup sollicités et il faut savoir être patient ensuite. Il va falloir s'armer de patience pour que chacun puisse prendre son tour.
Effectivement, c'est comme les climatiseurs, mais ça c'est un autre sujet, peut-être que l'on évoquera dans le courant de cette émission. Alors, Jean-Baptiste, vous avez vous aussi, je crois, un petit coup de gueule, et ça rejoint un petit peu les propos de Régis tout à l'heure sur le marché locatif.
Le marché locatif étudiant, en tout cas, les studios étudiants. J'ai vu une enquête paraître ces jours-ci, je crois que c'était mardi, sur l'encadrement des loyers, et notamment des logements étudiants. C'est l'association Que Choisir Ensemble qui a passé au crible 130 annonces de studios à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Montpellier, Grenoble, en fait 6 villes qui sont soumises à l'encadrement des loyers. Et bien résultat, 95% de ces annonces dépassent le plafond légal avec un dépassement moyen de 234 euros par mois. Alors il ne s'agit pas évidemment de faire le procès des propriétaires. La majorité des bailleurs ne sont pas des marchands de sommeil, c'est bien aussi quand même de le rappeler. Ouais. La plupart gèrent plusieurs biens, mais beaucoup ne comprennent pas eux-mêmes d'ailleurs le calcul du loyer de référence majoré qui change de zone en zone et de quartier en quartier. C'est parfois compliqué d'y voir clair. Il existe un mécanisme légal aussi, le complément de loyer pour les biens avec des caractéristiques particulières. Alors le problème, c'est pas ce mécanisme, c'est que selon l'étude, il est utilisé de façon quasi systématique et souvent sans justification sérieuse. C'est là le problème. 95%, c'est plus l'exception qui confirme la règle, mais ça devient effectivement une généralité. Et moi, ce que je dénonce, en fait, c'est ce rapport de force qui est quelque part complètement déséquilibré. Un propriétaire qui va peut-être chercher, je ne sais pas moi, à optimiser son complément de loyer, ce n'est pas la même chose qu'un étudiant, par exemple, de 18, 19 ans, parfois boursier ou à peine indépendant, et qui découvre 3 ans après qu'il payait 234 euros de trop. euros et qui ne savaient pas qu'ils pouvaient effectivement revenir là-dessus. Dans une réponse aussi, ça c'est important à préciser, à une question parlementaire publiée au Journal officiel au début février, le gouvernement a reconnu lui-même qu'un peu plus de 1500 mises en demeure, tout territoire confondu, ont été envoyées par les préfectures depuis 2019 et seulement 75 amendes ont été prononcées, le résultant au pire le propriétaire régularise et rend l'argent trop perçu. Il n'y a quasiment aucun risque finalement de tenter le coup.
Alors vous nous dites que les propriétaires ne sont pas tous des marchands de sommeil, bien sûr, mais qui est responsable aujourd'hui de ce dérapage à 95% finalement?
Déjà, on va commencer par la complexité même du dispositif. C'est difficile déjà d'une d'y voir clair. Ensuite, peut-être les plateformes aussi d'annonces. Elles ont l'obligation légale depuis 2022 de faire apparaître le loyer de référence majoré sur chaque annonce en zone encadrée. Et si c'est mal affiché ou si c'est mal vérifié, laisse passer des annonces hors des clous et sans aucun filtre non plus. Et puis l'État lui-même, qui a voté une loi sans se donner finalement les moyens de la faire respecter, encore une fois, 75 amendes en l'espace de 7 ans.
Alors j'ai envie de demander à Régis de
réagir justement par rapport aux plateformes. Oui, alors sur les plateformes, en effet, c'est bien indiqué. Et puis côté bien ici, nous n'avons que des annonces de professionnels. Donc tout est réglé et justement, ça serait contre-indicatif d'essayer de frauder à ce niveau-là. Moi, je retiens surtout un point qui est important, c'est sur tout ce qui a été signalé comme abus. Le risque, c'est que le non-signalement est beaucoup plus important que ça. Pourquoi ? Parce que c'est tellement difficile de trouver un logement à louer aujourd'hui que quand on en a trouvé un, on ne va pas dire on paye un peu trop cher, etc., pour risquer de le perdre. Voilà. Donc, à mon avis, c'est encore bien plus élevé. Vous avez parlé des caractéristiques exceptionnelles. Ça a été corrigé à Paris et puis on l'a vu sur le début d'année 2025, et en tout cas depuis le début d'année 2025, cette petite correction sur ce critère exceptionnel a eu un effet justement de baisse du loyer moyen observé. Et c'était très important parce qu'on était dans une logique de prix maximum conseillé sur le loyer. C'est-à-dire qu'on avait quel était le prix maximum et on pouvait s'aligner parce que la demande est là. Donc oui, il y a eu un effet un peu pervers dessus en se disant « oui, on peut aller jusque-là, donc on a le droit d'aller jusque-là, autant y aller ». En effet, ce n'est pas tout à fait propre de bon sens, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure sur une autre question. Et oui, ça empire la situation actuelle. Au niveau de la réglementation de loyer et de l'encadrement, on est bien sur une bonne limite qui est saine, légale, qui a un bon sens. Voilà, c'est les abus qui font que ça joue et le risque principal, c'est le calcul qui est complètement aberrant d'un quartier à l'autre, d'une condition à l'autre. On en revient au même calcul que le DPE aussi, qui fait débat. On est toujours sur ces ajustements parce qu'au final, on ne va pas avoir deux personnes qui se ressemblent et on ne va pas avoir deux logements qui se ressemblent et qui sont complètement identiques sur la même note et qui veulent la même chose. On parle de DPE sur l'engagement du froid surtout. On n'a pas les mêmes règles sur le chaud. Vous voyez, ces limites encore sont ajustées et ça aide vraiment les questions des débats dont on parlait tout à l'heure qui doivent justement trouver des bonnes solutions à ce niveau-là.
Et on rejoint un petit peu ce que disait Myriam aussi tout à l'heure, à savoir trop de réglementation. Est-ce que ça en fait partie ? Est-ce que l'encadrement des loyers, c'est une réglementation de trop ou est-ce que ce n'est pas...
Et contre-indicative assez... des fois. Contre-indicative.
Il y a un vrai débat sur ce sujet, au-delà de la politique, parce qu'on sait qu'on est plus à gauche si on est pour l'encadrement des loyers, et quand on est contre, on dit qu'on est à droite, donc ça c'est un peu caricatural, mais c'est un petit peu...
Au-delà, c'est vrai que c'est important par rapport à ce que vous évoquiez sur le DPE. Aujourd'hui, au regard de ce qui se passe et de la canicule, quid ? Qu'est-ce qui va se passer ? On a légiféré, et puis on a modifié évidemment la législation parce qu'on s'est rendu compte que ça avait été trop loin. Quid du nombre de passoires thermiques chaud et froid ? Qu'est-ce qui va se passer ?
On lutte contre la déperdition de chaleur et du coup, on crée une cocotte minute pour l'été.
Voilà, exactement. Et on risque d'avoir des problèmes l'été prochain.
C'est même sûr.
Bien sûr, mais d'une manière intense.
Oui, absolument. Et puis après, il y a les enjeux de préservation du patrimoine. On ne peut pas avoir la même logique avec l'existant. On sait que, je crois, la statistique, c'est 80 ou 90% de la ville de 2050 est déjà là. Donc le sujet de l'adaptation ne peut pas se traiter pour du bâti patrimonial de la même manière que des logements neufs. D'un côté, on est dans de l'isolation. Quand on fait du neuf, on s'extrait de l'environnement extérieur le plus possible. Et effectivement, lorsqu'on est dans des technologies entre guillemets un peu plus anciennes où les écarts de température n'étaient pas les mêmes, on peut avoir des effets de cocotte minute, mais c'est encore plus vrai dans du bâti patrimonial où les matériaux étaient là pour transpirer, pour avoir des échanges de gaz et notamment de vapeur d'eau qui font que si on leur appose une isolation complètement étanche, on perd les propriétés de ces matériaux. Donc il faut aussi adapter à chaque site. On est bien ici, c'est le nom de votre, de votre entreprise et en l'occurrence sur ces sujets-là, en matière d'adaptation, quel que soit le sujet, c'est très circonstancié. Mais l'architecte sait travailler sur le génie du lieu, le paysagiste aussi, et je pense que ça, au-delà de toute réglementation, ça doit présider à nos actions.
Voilà, c'est notre bon sens commun.
Exactement.
On y revient.
On y revient, effectivement. Mais c'est vrai ce que vous disiez, Pierre, à savoir que la ville de 2050, on y est déjà. Et elle est arrivée beaucoup plus vite que prévu. Il y a deux ans, j'animais une conférence à Reims. Je me rappelle, le sujet était le réchauffement climatique et l'hôpital en 2050, ce qu'il faudra faire. Et en fait, on y est déjà.
Bien sûr.
On y est déjà. Ça va beaucoup plus vite que prévu. On a perdu beaucoup de temps, finalement.
On a perdu du temps, on peut se lamenter sur ce qui a été fait, mais encore une fois, essayons de regarder demain et de profiter, c'est terrible de le dire ainsi, mais de cette difficulté que nous vivons actuellement. Et on pense évidemment à celles et ceux qui souffrent, et nous en faisons chacun et chacune d'entre nous, je pense, sur ce plateau partie, même si nous ne sommes pas parmi les plus fragiles. On a une pensée évidemment pour nos aînés, pour les gens qui sont dans les hôpitaux, pour les plus jeunes, dont on ne sait pas comment ils vont vivre demain. N'ayons pas cette amnésie régulière, parce que les signes avant-coureurs, il y en a eu. Si on lit à la lettre les publications scientifiques, nous savions. Donc le sujet, c'est plutôt de regarder devant et comment est-ce que collectivement, on peut se remonter les manches avec des solutions qui sont pour certaines très lourdes et qui vont nécessiter des investissements et que l'ensemble des collectivités et des investisseurs privés puissent accompagner ces transformations, mais aussi des solutions plus légères et... on peut les appeler comme on veut, du bon sens, du génie des lieux, du ici et maintenant. Ouais. Voilà.
Et que ça fasse consensus aussi. Parce qu'on reste quand même, malgré tout, depuis deux ans, dans une instabilité forte au niveau politique. Donc c'est compliqué d'avancer sur des sujets essentiels, comme celui-là d'ailleurs. Et c'est bien dommage.
Resterons-nous sur une instabilité à partir de 2027 ? À suivre, on verra bien. Pierre, vous aviez la parole, je vous la redonne tout de suite, pour évoquer votre... coup de cœur peut-être, ou plutôt un coup de cœur?
Oui, plutôt un coup de cœur, bon, toujours, parce que si on veut des coups de griffe, on peut les donner, mais on peut toujours le transformer en coup de cœur. Alors, si vous le permettez, Eric, je dirais juste un petit mot sur Idées Verdées.
Bien sûr, voilà, que vous venez de rejoindre, je le rappelle.
Voilà. On s'est connus avec Natures Urbaines il y a quelques années, et c'était les Jardins de Galie qui en étaient partenaires, donc c'était un club de la Ligue 1, un grand club du paysage, et puis j'ai rejoint pendant deux ans l'UNEP, avec grand plaisir, la sélection nationale, et avec Idées Verdées, on joue en Ligue des Champions, puisque Idées Verdées est présent dans 7 pays. Mais il y a, je dirais, 3 mots-clés qui caractérisent et qui vont faire le lien avec ce qu'on a évoqué. Il y a une notion de performance chez Idées Verdées, c'est des solutions en matière de végétalisation, en matière de paysage, de transformation de l'espace public et privé, qui sont suivies d'effets. Puisqu'on gère la plupart du temps, on entretient ce que l'on aménage et on le fait au plus près des concepteurs, qu'ils soient paysagistes, concepteurs ou architectes. Il y a une notion de durabilité, parce que ça c'est le mantra de tous les acteurs du vivant. Lorsque l'on livre un ouvrage, contrairement aux maçons, on ne doit pas une garantie de parachèvement, mais l'histoire ne fait que commencer. On livre un espace qui a la capacité de croître, un espace fertile. Et puis enfin, c'est la proximité. En France, Idées Verdées, c'est 4 régions, 24 territoires, mais surtout 100 sites. Il n'y a pas un bassin de vie qui n'a pas une agence de proximité autour de chez soi. Et c'est effectivement ça que je voulais évoquer comme coup de cœur. Nous sommes les opérateurs de sujets qui sont plébiscités. On parle beaucoup de la figure de l'arbre qui, c'est vrai, et nous n'aurons de cesse de le répéter, est à la fois un château d'eau et un climatiseur des plus performants. par l'ombre que les arbres procurent, mais aussi par ce phénomène d'évapotranspiration qui fait que l'eau qui est contenue dans les arbres va changer d'état, elle va passer de l'état liquide à l'intérieur de l'arbre à l'état gazeux, et ça accentue ce sentiment de fraîcheur que l'on a, et qui fait qu'on peut saluer les municipalités qui ont ouvert toute la nuit, pendant les canicules, leur parc et jardin. En disant « nous assumons le coût du gardiennage, le coût de la sécurité supplémentaire qui est bien inférieur aux coûts de santé qui vont être générés par ces canicules, même si, et ça c'est un propos responsable, on parle beaucoup du millefeuille administratif, même si les coûts de santé ne sont pas assurés stricto sensu par la ville ou la communauté urbaine qui est en charge des espaces verts. Alors mon coup de cœur, il est pour un événement de lancement, d'un événement pour 2027. Il y a deux jours, nous étions réunis autour de Nicolas Sirot, qui est un fou de la Seine, du fleuve Seine, pour lancer The Flow, au siège de Kaufmann & Broad à Courbevoie. Et c'est pour moi l'illustration de la complémentarité, de la nécessité pour que cet emblème de l'arbre reste et devienne de plus en plus un parasol vivant sous lequel nous abriter, c'est le lien entre l'eau, le sol et le végétal. Mmh. Et pourquoi ce coup de cœur ? Parce que nous étions sur le rooftop, sur la toiture de cet immeuble au 5e étage, qui donne sur la Seine, et on a un rapport au vivant, à la nature extrêmement fort, grâce à cette architecture, je rends hommage aux confrères de Myriam, puisqu'on voit l'eau, on voit le ciel, on voit la végétation, et la directrice des ressources humaines, Sophie Letiers de Kaufmann & Broad, le disait, on ne mesurait pas, avant d'emménager dans ce site, à quel point les vues sur la Seine allaient être plébiscitées. Et puis, ce rooftop, cet étage intermédiaire, cette toiture, elle est aménagée avec un jardin. Et je salue là le métier dont il faut parler de plus en plus, c'est les paysagistes concepteurs. Mmh. En l'occurrence, c'est Landact qui a inséré ce bâtiment avec l'architecte dans son environnement. Et on ressent véritablement une nature de proximité. Donc, The Flow 2027, il y a un grand appel qui est lancé auprès des entreprises, notamment de Paris La Défense, pour accompagner ce festival qui vise à aller tous ensemble sur l'eau. Une partie corporate durant la semaine, donc ce sera en juillet 2027, okay, pour que les entreprises puissent collectivement vivre l'expérience de voir La Défense et de voir toute la boucle de la Seine depuis l'eau. Et ensuite, le grand public, et on a eu le grand plaisir d'avoir le soutien, et je les cite parce qu'ils ont vraiment été formidables, de trois maire représentant deux territoires, deux départements. Jacques Kosowski, qui était l'hôte des lieux, le maire de Courbevoie, mais qui est aussi président de l'association des maires des Hauts-de-Seine. Mmh. Dans les Hauts-de-Seine, il y a bien le mot Seine. Denis Larguero, le maire de Meudon, au titre aussi de sa vice-présidence du conseil départemental, le conseil départemental qui soutient cette initiative. Et puis Mohamed Gnabali, qui est le maire de l'île Saint-Denis. Vous savez que l'île Saint-Denis, c'est un pivot de ce bras de la Seine aval en Seine-Saint-Denis, et c'est le président de l'association des maires de Saint-Denis. Et ces édiles l'ont dit, nous allons transformer les quais pour les rendre aux habitants. Donc ça, c'est formidable, on va pouvoir avoir un rapport avec la Seine, mais on a aussi besoin de contributions privées et on a besoin d'événements pour mettre un coup de projecteur sur ces espaces. Et ça, ça rejoint un des points que l'un d'entre vous a évoqué tout à l'heure. Alors, on parle de désirabilité, on peut parler de grands mots, mais c'est bien faire et le faire savoir. Moi qui viens de Saint-Étienne, c'était la devise de Manu France. On a besoin d'événements pour révéler et faire en sorte qu'au-delà de la contrainte légale, au-delà de l'incitation, la demande puisse venir des citoyens et que parfois ils ne l'expriment pas, eh bien un événement permet de changer de regard. Donc vous allez voir sur internet The Flow 2027.
The Flow, F-L-O-W, et ce sera donc en juillet 2027. J'espère que Radio Imo sera partenaire de cet événement.
On espère.
Suivre. On verra ça. Donc ce sera l'année prochaine, The Flow. Et il y a pas mal de municipalités qui aujourd'hui prennent tout cela en main. Vous avez évoqué plusieurs maires. Pour une ville que je connais bien qui est Argenteuil aussi, il y a un gros travail qui est réalisé actuellement sur... Sur les bords de Seine avec le maire Georges Mautron et avec l'adjointe à l'urbanisme Camille Giquel qui œuvre énormément en ce sens également. Donc merci beaucoup. Absolument. Pierre pour ce coup de cœur, et puis on vous souhaite bien sûr une très belle carrière chez IDVRD qui commence tout juste, mais on n'a pas de... avec tout ce que vous nous avez dit, et quand on vous connaît un petit peu, on n'est pas étonné du tout du choix de cette société pour la suite de votre carrière. Moi j'ai un petit coup de cœur, mais très rapidement sur les pierres d'or 2026. Ah oui. Les pierres d'or, c'est ce sont les Césars ou les Oscars, on appelle ça, le ministre du logement disait les Oscars du logement, qui ont lieu le 30 juin dernier, autour de trois personnalités qui ont obtenu justement des pierres d'or. On évoquait, vous avez évoqué Groupama Immobilier tout à l'heure, Mathieu Tamayon, qui est responsable de l'innovation, voilà, qui a obtenu la pierre d'or innovation verte RSE, qui fait un travail colossal chez Groupama Immobilier sur ce sujet-là. J'ai deux petits chouchous aussi, qui sont François-Régis de Causan, qui a obtenu la pierre d'or dans la catégorie conseil, qui est managing director et directeur capital markets France chez CBRE. Donc il a été récompensé dans cette catégorie. Il a un parcours reconnu, largement reconnu dans l'investissement immobilier. Il accompagne les plus grandes opérations dans ce marché devenu complexe. Donc bravo à lui. Et puis à Christelle Zordan également, qui est directrice générale de la société de la Tour Eiffel, qui a obtenu la pierre d'or dans la catégorie manager, qui a mené une action phénoménale à un moment où la société de la Tour Eiffel était en grande difficulté. Ils ont redressé, grâce à Christelle, ils ont redressé la barre grâce à son action. Donc voilà, des trois coups de cœur mérités aussi à l'occasion des pierres d'or. L'édition 2028 donc a eu lieu le 30 juin dernier. On est parti pour l'édition 2029 et j'espère que beaucoup de belles personnalités, et notamment autour de ces sujets de rénovation et de transition écologique, pourront obtenir également leur pierre d'or. Alors, d'habitude, à cette heure-là, on donne la parole à notre invité, mais là, comme c'est la dernière de l'émission, on a dit on va donner la parole à quelques-uns de nos invités. C'est ce que l'on appelle le grand débat.
Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet.
Ou le grand sujet, c'est bien aussi le grand sujet. J'aimerais qu'on revienne, on a beaucoup parlé de location, beaucoup de logement bien évidemment, avec Régis Sebi notamment, avec Bien Ici. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'intervention cette année de Nadia Bouillet, qui est la directrice générale d'Action Logement. Action Logement qui, avec CDC Habitat, ont acheté en 2025, et ça se poursuit en 2026 et ça va continuer en 2027, 34 000 logements. Ils ont contribué à sauver une partie du secteur, évidemment le logement social. Donc je vous propose d'écouter Nadia Bouillet, la directrice générale d'Action Logement sur ce sujet, et puis on écoutera vos réactions ensuite.
Action Logement, on a deux grandes activités. D'un côté, on aide les salariés du secteur privé, donc avec tout un panel, on a parlé de Visal, mais il y a d'autres dispositifs dans leur parcours logement. Et l'année dernière, c'est 821 000 salariés qui ont été accompagnés par Action Logement dans leur parcours. Et puis, de l'autre côté, Action Logement, donc c'est un groupe paritaire qui existe depuis plus de 70 ans et donc qui a investi dans des sociétés de logement social, hein, notamment, et logement intermédiaire. Et donc, on a un patrimoine d'1,2 million de logements en France et on produit des logements. Et donc, effectivement, en 2023, on a demandé à nos filiales immobilières d'accélérer et puis de mener un plan qu'on a appelé le plan 30 000 logements pour l'emploi. Et entre l'été 2023 et avril 2024, donc en peu de temps, on a acquis auprès des promoteurs 34 000 logements, donc on a dépassé l'objectif. Et c'est des logements, déjà, il faut dire les choses, hein, c'est-à-dire qui sont pour moitié logements sociaux, moitié logements intermédiaires. Les logements sociaux ont été acquis en moyenne moins cher que les logements sociaux tout court, hein, quand on regarde et qu'on se compare. Et au niveau des logements intermédiaires aussi, ça a été des logements décotés par rapport au prix de vente, en fait. Donc, c'est les promoteurs n'ont pas fait de marge, en fait, sur ça. Mais c'était important pour eux qu'ils puissent, pour l'activité, continuer à travailler. Ouais. Ils avaient des logements vacants, des logements ou des permis de construire qui étaient accordés, qu'on ne pouvait pas lancer le chantier parce qu'il n'y avait pas assez de réservations. Donc, on est intervenu à ce moment-là. Et évidemment, suite à ça, après, on a continué à accompagner les promoteurs avec des conventions pour travailler avec eux. Aujourd'hui, très concrètement, sur les 34 000... on est en livraison à peu près à 10% qui sont livrés, les salariés sont dedans et je peux vous dire, on a une occupation qui est pleine. Et puis, donc les chantiers continuent, hein, donc il y a des chantiers qui sont en cours et donc on suit ça de très près, puisqu'ils vont encore sortir de terre en 2026 et en 2027 pour certains. Et l'année dernière, sur la production en fait, de nos filiales immobilières, c'est 45 000 mises en chantier.
Voilà, Nadia Bouillet au micro de notre cher Sylvain Lévy-Valency, lors du grand jury de la presse immobilière. Alors, on pourrait dire, c'est une belle action, hein, c'est formidable, mais est-ce que c'est quoi? C'est une goutte d'eau dans Myriam, qu'est-ce que vous en pensez? Une goutte d'eau dans...
Non, c'est pas une goutte d'eau, parce que toutes les interventions en matière de logement sont importantes. De toute façon, les promoteurs étaient dans une situation absolument difficile, puisqu'il n'y avait pas de possibilité d'acquérir, il y avait des problèmes divers et variés, surtout sur les prêts immobiliers avec des taux extrêmement importants. Donc les futurs acquéreurs ne pouvaient pas, ils étaient bloqués, les permis de construire étaient bloqués, les marchés de travaux ne pouvaient pas. Donc c'est une très belle initiative. Bon, il faut qu'elle elle continue peut-être.
Absolument, mais elle continue, c'est ce que nous disait Nadia, voilà. Ça continue effectivement sur 2027. Ça rejoint un petit peu, Régis, les sujets que vous évoquiez aussi lors de la conférence de presse sur le marché
sur location,
et,
oui.
Location, et notamment, on parlait des étudiants avec Jean-Baptiste aussi tout à l'heure, mais les jeunes salariés aussi ont du mal à se loger aujourd'hui, ça peut être,
exactement.
Parce que Action Logement aide les salariés à se loger.
Action Logement, c'est une vraie soupape en fait, et de plus en plus, parce que... Au-delà du social, il y a toute cette partie salariée, premier acte dans la vie, qu'on soit étudiant, qu'on soit jeune actif, etc. Bah pour rentrer dans son parcours résidentiel, avoir son premier logement, on a besoin d'avoir tout ce qu'il nous faut et d'y accéder. Sur le parcours locatif, c'est toujours compliqué parce qu'on est en manque d'offres et des loyers qui sont assez élevés par rapport aux revenus qu'on commence à gagner en entrant dans la vie active. Et Action Logement va aider ça. Y a tout ce qui est garantie visale aussi, qui est très très important et qui est porté et poussé par Action Logement. Tout ça, c'est des bonnes idées, c'est un vrai rôle de soupape. Et sans Action Logement, c'est sûr que la situation aurait été beaucoup plus catastrophique sur les dernières années.
Et on félicite bien sûr les actions d'Action Logement qui se poursuivent tout au long de l'année. On était très heureux d'avoir Nadia Bouillet qui est une grande professionnelle du secteur et qui est reconnue d'ailleurs pour toutes ses actions. Alors avec Romain Rossilandi qui lui est avocat spécialisé en droit de l'immobilier, on l'a reçu dans le grand jury de la presse immobilière en novembre dernier, il s'exprimait sur la transition énergétique et son effet justement sur les propriétaires et le fait que l'on ne pouvait pas louer des logements F ou G. On écoute Romain Rossilandi.
On parlait des entraves, encore un exemple, d'une entrave très forte là, au droit de propriété. Parce que, en fait, on fait peser aux propriétaires la responsabilité de la transition énergétique. Hein. Très clairement, on lui dit tu vas payer la facture, tu vas faire les travaux de rénovation, sinon tu ne pourras plus louer. Et c'est déjà le cas. Les passoires énergétiques, les G. Ils peuvent plus louer. Alors, tout le monde le fait quand même. Hein. Tout le monde loue. Hein. Mais, ils louent quand même. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que le calendrier il est absolument intenable. Dans 3 ans, ce sera les F.
Ouais, en 2028,
après,
c'est les F.
En 2034, ce sera les E. Tout le monde est E. Hein. Tout le monde est E.
Bah, surtout dans les grandes villes.
Mais je ne sais pas quelle folie ils ont. Moi, sur le papier, tout le monde veut de la rénovation énergétique. On est tous d'accord. On veut des logements plus confort, etc. Mais qui va payer ça? C'est pas possible. Les propriétaires, surtout en copropriété. Il faut alors ne branchez pas là-dessus.
Voilà, ne mangez pas là-dessus. Romain Rossilandi au micro de Bérénice de Ville Fleuriot. Alors c'est un vrai sujet, ça aussi, parce que quelque part on se dit, bon, avec les marchands de sommeil, etc., il faut absolument agir, il ne faut plus louer certains logements parce qu'ils sont dans des états complètement délabrés. Pierre, j'imagine que vous avez un avis sur la question. Est-ce qu'aujourd'hui, revenir à louer des appartements en F, c'est une bonne chose ou pas, selon vous?
Alors moi, je ne suis pas le plus avisé pour répondre à cette question. Simplement, en tant que citoyen, il est évident que ce qui était dit par l'avocat à l'instant, il a dit surtout dans les copropriétés.
Oui.
Et je pense qu'il y a un sujet, c'est comment est-ce qu'on accompagne les collectifs. Ça, il y a deux choses pour moi. Et un certain nombre de cabinets le font, c'est identifier quels sont les leviers de financement de cette rénovation énergétique. Donc il y a toute une ingénierie. Et puis d'autre part, de l'intelligence collective ou de la conduite du changement. C'est-à-dire que le consentement que l'on a pour se mettre d'accord, pour engager quelque chose qui sont souvent des travaux lourds, au-delà même des montants, c'est l'envie et le fait d'y aller tous ensemble. Donc il y a les moyens, mais il y a aussi l'envie de faire. Et là-dessus, y a probablement des choses à améliorer. C'est vrai qu'en France, j'en parlais avec un architecte urbaniste assez récemment, on a tendance, dans les copropriétés, même les petites, à mettre sous le tapis, entre guillemets, des travaux, même de moindre importance. Il semblerait qu'ailleurs, il y ait des obligations de réinvestir chaque année une partie pour l'entretien. Donc, le sujet est complexe. Je laisse la réponse aux spécialistes. Mais en tous les cas, en tant que citoyen, un petit peu comme nous l'évoquions tout à l'heure face à ces canicules qui nous tombent dessus et à répétition, eh bien, cessons peut-être cette amnésie et prenons le sujet à bras-le-corps en mobilisant les outils qui existent et puis en essayant de trouver consensus collectif et puis de regarder les exemples qui fonctionnent parce que certains réussissent.
Effectivement. Myriam ?
Il y a parfois un problème, je vous rejoins tout à fait, de pédagogie, d'information et de communication. Dans des réunions de copropriété, on s'aperçoit que dès qu'on assène à une copropriété en AG, il faut faire ci, il faut faire ça, tel est le prix, voilà, etc. Les copropriétaires ont l'impression que c'est vraiment un coup de massue d'un seul coup. Alors que si les choses se font d'une manière un petit peu plus vivante, justement, en donnant des exemples, en faisant une espèce d'assemblée générale de communication et d'information, on s'aperçoit que ça permet de lever certaines appréhensions et de mettre en place peut-être un parcours aussi du copropriétaire qui serait d'accord de laisser un petit peu, je dirais, d'argent sur le bien commun et sur la mise en place d'une stratégie un petit peu différente et beaucoup plus patrimoniale.
Les copropriétaires aujourd'hui traînent à rénover, Myriam ?
Oui. Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation a changé, puisqu'on a moins besoin, on n'a plus besoin du quorum, on n'a plus besoin, je dirais, il y a quand même eu des périodes où on était obligé d'avoir l'unanimité des votes. Bon, heureusement, les choses ont changé. Je pense qu'il y a un problème de communication. Aujourd'hui, il y a énormément de copropriétés qui ne savent pas comment faire. Ils ne sont pas toujours aidés par des syndics qui sont eux-mêmes pas toujours bien informés. Et je trouve qu'une grande communication sur le sujet intéressante, loyale et, on va dire, éthique permettrait sûrement de lever quelques appréhensions.
Jean-Baptiste, je voyais acquiescer au propos de Myriam.
Mais oui, sur la communication, c'est hyper important. J'ai eu l'occasion d'assister et d'animer des conférences dans le cadre du Réno Tour, qui est organisé en même temps que le Réno Days. Et en fait, on voit que de plus en plus, tant mieux, il y a des associations locales qui, justement, se font le relais de ce qui existe, notamment, par exemple, en matière d'aide, pour aller voir les syndics, mais aussi les copropriétaires. Et puis pour les informer. Parce qu'en plus, après, le temps est long. Entre le moment où on décide d'engager les travaux et à partir du moment où ils commencent réellement, il se passe parfois jusqu'à 3 ans.
Eh oui.
Donc c'est extrêmement long. Et puis aussi, alors oui, il faut savoir communiquer, il faut aussi que les pouvoirs publics puissent communiquer, mais c'est pas toujours évident, notamment quand vous avez des stop and go permanents sur MaPrimeRénov', on pourrait parler d'autres aides. Ça aussi, ça vient noyer le discours, la communication, et c'est pas simple du coup d'agir derrière.
Effectivement. Alors, en restant dans l'actualité, nous avons reçu au mois de mars dernier, juste après le MIPIM, le ministre du Logement et de la Ville, Vincent Jeanbrun, qui a évoqué, donc au micro de Sylvain Lévy-Valency, son plan relance logement. Alors, on va écouter un petit extrait, parce qu'il en a beaucoup parlé, l'émission a duré une heure, mais voici un petit extrait des propos de Vincent Jeanbrun, c'était en mars dernier.
D'abord, il y a eu la volonté politique, vous l'avez dit. Et quand il s'agit de produire du logement, il y a la volonté de l'État, on l'a annoncé avec le plan de relance autour du Premier ministre, mais il y a la volonté des élus locaux. C'est pour ça que moi je veux parier sur les élus locaux, je veux parier sur les maires, tous ces maires qui viennent d'être réélus ou élus, qui ont envie de produire du logement sur leur territoire, et pas que du logement d'ailleurs, parce que souvent on veut produire un morceau de ville. On veut créer du logement, et puis peut-être l'école qui va avec, du logement et peut-être les loisirs, le gymnase, l'infrastructure, l'entreprise aussi, on en a grandement besoin. Et donc, quand il y a une volonté politique dans un territoire, et qu'elle est au service d'un intérêt général, je souhaite qu'on puisse s'inspirer de ce qui a été fait pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire raccourcir toutes les procédures administratives. Pas être moins ambitieux en termes de qualité de construction, en termes de sécurité de la construction, en termes de normes environnementales de la construction, mais bien écraser tous ces délais administratifs qui sont extrêmement longs. Il y a tous les délais administratifs courants, c'est-à-dire tout ce qu'il faut déposer en mairie, tout ce qu'il faut déposer en préfecture, mais il y a aussi, je l'évoquais tout à l'heure, toutes les démarches juridiques et judiciaires quand vous avez une pluie de recours sur un dispositif.
Voilà, simplification, ajout des territoires aussi, ça a été fait sur ce plan relance logement qui a été adopté par le Sénat, donc c'était il y a quelques jours, hein, le 7 juillet dernier, qui va être examiné à l'Assemblée nationale à la rentrée. Vous en pensez quoi, vous les uns et les autres, de ce plan relance logement? Régis, vous nous disiez tout à l'heure, c'est plutôt une bonne chose.
Bah déjà, jusque-là, il n'y avait pas grand-chose, donc oui, c'est forcément une bonne chose. La simplification, c'est la clé de tout, parce qu'on a besoin d'agir vite. Et en fait, on a besoin d'agir vite parce que tout change très très vite. On en a vaguement parlé tout à l'heure, mais globalement, sur les normes DPE, quand elles sont arrivées, ça a tout chamboulé. C'est-à-dire que normes DPE, si on parle de loi climat et résilience 2022, et on parlait des grandes villes tout à l'heure, et sur les passoires thermiques, avant, les passoires thermiques dans les métropoles, c'était 80% de l'offre qui était allouée, 20% des biens passoires thermiques qui étaient à vendre. Aujourd'hui, c'est complètement inversé. C'est-à-dire que sur l'ensemble des biens typés F, G, alors G, c'est interdit, mais F, c'est 20%. De ces biens qui sont alloués. Donc ça a fortement diminué. Et pourquoi ? Parce que les travaux sont compliqués. Les travaux en copropriété, on en a parlé. Quand vous êtes 5 propriétaires bailleurs sur une centaine de copropriétaires, forcément, votre poids, il est moindre. Donc vous avez des travaux à faire pour pouvoir louer. Vous les faites seul. Et aujourd'hui, bah, vous isolez par l'intérieur. Quand ça sera voté en copropriété, qu'est-ce que vous faites ? Vous cassez tout parce que sinon, vous avez trop grossi. Voilà. En fait, on est à double vitesse là-dessus. Et c'est là où il y a besoin de simplification. Parce qu'en étant à double vitesse, eh ben, y en a qui vont devoir agir vite parce qu'ils sont dans l'urgence. Et d'autres qui prennent le temps parce qu'ils ne savent pas où aller.
Simplification, c'est le maître mot, Pierre. Vous êtes d'accord ?
Oui, alors moi je ferai un pas de côté par rapport au sujet que les paysagistes connaissent mieux. On a parlé de temps long et effectivement, en matière d'adaptation notamment, c'est un argument qu'on entend de plus en plus chez nos politiques en ce moment et tant mieux, certains disent l'atténuation, c'est pas nous. C'est à l'étranger de faire des efforts pour baisser l'impact carbone. Bon, c'est un peu facile si vous voulez mon avis, mais l'adaptation c'est ici et maintenant. Et en fait, on est en train de changer de logique. Le paysage, le vivant, est en train de devenir l'infrastructure des villes et qui transcende l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec cet immeuble qui donne sur la Seine. On transcende la frontière publique-privée pour des coûts qui sont bien incommensurablement inférieurs à ceux des rénovations dont on parle en termes de bâti. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. Ça veut dire que sans attendre, on peut concevoir des espaces vivants, avec du vrai sol, avec des végétaux qui vont mettre du temps pour certains à se développer et qui vont tout de suite, on parlait de communication, recueillir un assentiment positif, contribuer à améliorer la qualité de vie, parce que quand il fait chaud, encore une fois, se mettre à l'ombre d'un arbre autour d'un jet d'eau, on a un sentiment de fraîcheur immédiat. Et donc dans les grands arbitrages qu'il va y avoir dans les mois et les années qui viennent, il va falloir qu'on fasse des choix. On ne peut pas ouvrir les robinets, les vannes tous azimuts. Eh bien, favoriser un retour et une réconciliation entre le vivant et la ville, comment mieux habiter cette nature, au fond, on revient au thème initial, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, si des dispositifs encouragent fortement la rénovation et relâchent un petit peu la pression avec une simplification de démarche pour la construction, on va dans le bon sens, mais il nous faut ce lien entre les espaces publics et privés, et que chacun fasse sa part en la matière, et le paysage peut être ce lien.
Le paysage en lien direct avec l'architecture,
oui, bien sûr, mais encore faut-il ne pas remettre en cause tout le temps le ZAN, qui était tout à fait d'actualité et qui a été un peu chamboulé dernièrement. Je reviendrai aussi sur le fait de donner une valeur à l'espace extérieur, à l'espace paysager. Il n'a pas de valeur marchande. Donc le problème aujourd'hui, c'est de dire un terrain avec un permis de construire, il a une vraie valeur. On lui dit, voilà, tu peux faire tant de mètres carrés, etc. Le terrain à côté, qui est un espace vert valorisé, qui permet aussi à quelqu'un qui a trop chaud dans son logement de descendre au pied de son immeuble, s'asseoir sur un banc à l'ombre d'un arbre, n'a pas nécessairement, le coût des espaces publics, le coût des VRD, le coût. On ne donne pas toujours une vraie valeur marchande à ce coût.
Je vous invite en la matière à lire un rapport qui a été publié par l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, il y a 2 ans, avec Asterès, le cabinet de Nicolas Bouzou, qui parle en centaines de millions et en milliards d'euros des externalités positives. C'est-à-dire qu'au-delà de la valeur intrinsèque d'un terrain, il y a ses bénéfices pour l'ensemble de la société, y compris de manière très locale. Et c'est attesté par les économistes, ces externalités positives sont extrêmement fortes. De mémoire, pour 1 euro investi dans le vert, vous générez pratiquement le double en externalité positive. Je vous invite à aller voir ce rapport d'Asterès parce qu'il faut que je rafraîchisse ma mémoire aussi.
c'est noté. Tout cela rejoint le bon sens finalement, Jean-Baptiste, que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, mais puis pour reprendre les mots du ministre, simplification, mais qui peut être contre ? J'ai juste un peu l'impression qu'on entend ça depuis des décennies, ouais. Le mot simplification, simplifier l'administratif. Mais oui,
il y a du
bien
boulot,
sûr, ça aussi, c'est évidemment du bon sens. Maintenant, quid de ce qui va vraiment être mis en place.
Voilà, il nous reste 1 minute 30 peut-être pour une conclusion autour de vos agendas de l'été ou de la rentrée, je ne sais pas. Myriam, vous avez une galerie aussi architecturale, voilà. Avec une belle exposition actuellement.
Tout à fait. J'ai ouvert, il y a à peu près 2 ans maintenant, une galerie qui s'appelle Imaginaire d'architecture, qui expose des architectes qui font autre chose que de l'architecture. Et il y en a énormément, il y en a beaucoup. Donc de l'architecture, évidemment, vue différemment. Léonard de Vinci était un des premiers à faire cela. Et j'expose aussi des artistes dont la ligne directrice est autour de l'architecture, du paysage et de l'urbanité. Voilà, et nous avons une vraie actualité prochainement avec dans la ville de Fontenay-sous-Bois, mais les auditeurs en sauront plus à la rentrée.
On en reparlera. La galerie, c'est dans le 14e.
Dans le 11e.
Dans le 11e.
5 rue Rochebrune, Imaginaire d'architecture, et suivez-nous sur les réseaux.
Voilà, je l'avais écrit le 11e, mais évidemment, je vais le faire de tête. C'est autant pour moi.
Pas de problème.
Pierre, votre actualité.
On va vers la douceur. Le 15 septembre à Angers, pour le Salon du Végétal, il y a une grande conférence pour les 20 ans d'un organisme extraordinaire pour tous les acteurs de la ville qui s'appelle Planter Cité. Et on a le plaisir de recevoir, et j'animerai cette rencontre, Madame Monique Barbu, la ministre en exercice de la transition écologique, qui annoncera, et ça c'est extrêmement important, le plan français en matière de restauration de la nature. Vous savez qu'il y a une loi européenne, un règlement européen qui a été voté en 2024, qui impose de restaurer les écosystèmes dégradés, donc on va parler de génie écologique, mais aussi de développer les espaces verts urbains, pour en particulier la santé des habitants. Et elle le fera en présence et en interaction avec son prédécesseur, le maire d'Angers, monsieur Christophe Béchu, avec Marc-André Solos, qu'on ne présente plus, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et pour représenter les architectes, madame Christine Lecomte, la directrice de l'ENSA Paris-Belleville, mais aussi ancienne présidente de l'Ordre. Exactement. C'est le 15 septembre matin à Angers, Salon du Végétal. Vous tapez ça sur les meilleurs moteurs de recherche.
Ah, très bien. Hein.
Ah, bah oui, et puis à Angers, il faut y aller. Hein.
Angers, il faut y aller.
C'est une très belle ville.
Le Salon du Végétal, aller à Terra Botanica, c'est.
La ville la plus verte de France.
Voilà. Exactement. Jean-Baptiste, on vous retrouve à la rentrée, bien sûr, au micro
avec
de Radio IMO.
De
Radio IMO. Et aimer, c'est joli, Radio IMO, finalement.
Oui,
je retiendrai. Aimer Radio IMO, c'est joli.
Voilà, Radio IMO, Radio Territoria. On sera présent aussi sur les salons, je pense.
Exactement. Et le premier, d'ailleurs, ce sera le CIPCA, du 1er au 3 septembre. Évidemment, on est un peu en lien avec.
Un peu avant aussi, on sera à Roland-Garros pour
la RFE.
Pour la REF. Et puis, on sera aussi à l'automne un peu plus, mais je crois que c'est septembre aussi, sur l'USH, à Bordeaux.
À Bordeaux, voilà, ouais, 21-23 septembre.
Voilà, pendant 3 jours.
Voilà, de belles actions. Et bien sûr, bien ici sera de la partie sur la reprise du grand jury de la presse immobilière.
En septembre. Un peu de vacances avant. Alors moi, je comptais me mettre sur le summer body, mais je comprends que ce n'était pas pour
cette vous avez déjà un summer body, Régis. Vous avez cette chance-là.
Et du coup, on se retrouve à la rentrée. Pour le retour de la météo. Oui.
Exactement, avec grand plaisir. Merci à vous tous d'avoir participé à cette dernière édition du Grand Jury de la presse immobilière de l'année, ce petit best-of qui s'est enrichi de vos commentaires. C'était très précieux. J'invite tout le monde à bien réécouter cette émission parce qu'elle est franchement... On a fait une bonne émission, non ? Franchement, on a fait une bonne émission.
Comme toujours.
Allez, les bleus. Merci, exactement. Merci aux équipes techniques, à Jason et à Baptiste également qui nous ont aidés à monter cette émission. Et on se retrouve à la rentrée au mois de septembre avec la reprise avec tous nos confrères de la presse immobilière, du grand jury de la presse immobilière. Merci à tous.
Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.